Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Auditeurs, auditrices sur l'ensemble de nos radios partenaires, bienvenue au Grand Dialogue. Mercredi 23 mars 2016, nous vous proposons aujourd'hui de parler de la protection des œuvres artistiques, culturelles et littéraires. Comment sont protégées les créations de nos artistes? Est-ce que la culture ou la littérature nourrit son homme aujourd'hui? Comment mieux protéger les créateurs? Ces quelques questions seront adressées à nos invités qui sont Hélène Diarra, elle est comédienne, Ismaïla Samba Traoré, écrivain et promoteur de la maison d'édition La Sahélienne, Madame Diallo Aïda Kone du Bureau malien des droits d'auteur, plus exactement du service communication et relations publiques, Adaman Traoré, il est lui de Acte 7, une association culturelle bien connue. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission. À la mise en onde, vous avez Gagné Kanté.
Le grand dialogue.
Dans le domaine de la musique, en guise d'exemple, il y a encore quelques années, près de 9 cassettes sur 10 étaient piratées. Au Mali, la création artistique et culturelle est sérieusement handicapée par le piratage. Les œuvres littéraires sont toutefois pas exclues. L'on voit devant les grands axes des revendeurs de CD, musique audio et vidéo, mais également des livres, des romans qui ne sont pour la plupart que de vagues copies. Comment est-ce que les créateurs arrivent aujourd'hui à vivre de leur métier avec autant de piratage dans le secteur? On va d'abord poser la question à Madame des droits d'auteur, Madame Diallo Aïda Kone.
Ok, merci. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices du studio Tamani. À savoir si la création littéraire et artistique nourrit son homme aujourd'hui, j'avoue que c'est une question complexe qui mérite d'être approfondie. Alors, vous avez tantôt parlé de piratage. Et si nous entrons dans ce domaine, la piraterie cause assez de dégâts. Et dans les domaines littéraires et artistiques. Et ce sont ces conséquences qui vont nous permettre de dire si l'art nourrit son homme. Alors, de façon simple, qu'est-ce que c'est que d'abord la piraterie? Je vais rapidement donner cette définition.
Allez-y.
La piraterie, c'est la reproduction illicite des œuvres licitement réalisées. Je fabrique ma cassette, elle est sortie de façon légale. Quelqu'un d'autre vient prendre cette cassette. Vous allez m'excuser parce qu'il y a une déformation. C'est surtout dans le domaine de la musique que nous évoluons beaucoup. Donc mes exemples seront pris sur le domaine de la musique. Mais ce n'est pas que la musique seulement.
Mais toutefois, le Bureau malien des droits d'auteur s'occupe de toutes les créations artistiques, culturelles ou littéraires.
Tout à fait. Tout à fait. Comme je vous l'ai dit, c'est une déformation professionnelle.
Alors, Hélène Diarra, vous comptez parmi les acteurs, on va dire, majeurs de la culture aujourd'hui au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'art et la culture nourrissent son homme?
Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Maïmouna Hélène Diarra.
Maïmouna Hélène Diarra.
Communément appelée Maïmouna. Communément appelée Hélène. Voilà. Bon, demander si l'art nourrit son homme, je dirais oui, je dirais non. Parce que c'est pas l'art ne nourrit pas seulement l'artiste. Et quelqu'un qu'on partage en trois ou quatre parties, il faut voir si la personne peut bien manger. L'art, ce n'est plus pour celui qui crée. Comme vous avez parlé de piratage, c'est presque plus pour les pirates que pour l'artiste.
Aujourd'hui.
Moi, je fais mon œuvre. Je donne la copie à quelqu'un pour reproduction. Peut-être que ce dernier, de sa part, prend une petite partie. Il y a l'édition, il y a les vendeurs et les piratages. Les pirates, eux, ils piratent. Et bon, la somme peut être partagée peut-être par quatre, au lieu que ce soit pour toi seul. Donc, je ne dirais pas que ça nourrit son homme. Ça, je ne le dirais pas. Tant qu'on ne lutte pas contre le piratage, mais je pense que ça n'ira pas.
Adama Traoré, vous êtes donc promoteur de Acte 7, qui est une association culturelle bien connue. Je reviens vers vous pour la même question. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que l'art, la culture nourrit son homme?
Ben, l'art, la culture, au niveau du Mali ici, je dirais non, je dirais oui. Pourquoi oui? Oui, quand nous travaillons beaucoup plus sur l'extérieur. Mais quand on doit travailler au Mali, il y a d'abord au niveau de la diffusion, il y a des problèmes parce que on n'a pas de structure, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de subvention pour les artistes pour aller dans des localités. Donc on a construit des salles qui ne sont pas adaptées. Donc déjà, on ne peut pas parler de spectacle en live pour gagner quelque chose là-dedans. Il n'y a rien à ce niveau-là, il n'y a pas d'aide. Donc, ce qui aurait été intéressant en ce moment pour les artistes, c'est ce qu'ils pouvaient percevoir comme droit par rapport à des exploitations. Donc, à ce niveau-là aussi, il n'y a rien. Donc, si des artistes arrivent aujourd'hui à vivre au Mali, je crois que c'est sur le marché international, mais pas au niveau du Mali. Donc, c'est là où je dis oui de son art, mais il faut avoir une certaine trempe et non quand tu dois te consacrer au niveau du Mali, parce qu'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de diffuseur qui a des moyens pour payer des spectacles et les proposer au public. Il n'y a pas de public à ce niveau-là, et donc comme il n'y a pas de subvention, il n'y a pratiquement rien.
Cela n'est-il pas dû aujourd'hui au manque justement d'organisation des artistes en industrie?
Ben non, c'est pas. Il faut. C'est ça le grand problème au niveau du Mali. Vous avez trois enfants qui vont à l'école. Il y en a un qui fait l'enseignement. Il y a un autre qui va faire médecine. Et un autre qui va aller à l'INA qui fait du théâtre. Celui qui sort du théâtre, de l'INA, théâtre, on veut qu'il construise son théâtre lui-même, qu'il crée son public et qu'il crée son spectacle pour le jouer. Celui qui est sorti de l'école des infirmiers, il y a des CESCOM, il y a des hôpitaux publics où il va, il est recruté, il est ce qu'il sait faire. En oubliant que pour parler d'industrie culturelle, l'industrie renvoie à deux choses. La production de masse et la chaîne des métiers. On ne peut pas voir une usine avec un seul métier. Et là, on veut que l'artiste, il soit en même temps, prenons le cas du théâtre, qu'il soit dramaturge, metteur en scène, comédien, agent de promotion, commercial, tout, que lui fasse tout. C'est ça qui est la difficulté. Parce que quelque part, on n'a pas compris cette idée d'industrie culturelle qui veut dire une chaîne des métiers. C'est malheureusement dans ces travers qui sont tombés beaucoup de musiciens. Tu vas trouver qu'il est en même temps le compositeur, l'arrangeur, l'éditeur, le musicien, le diffuseur. Non, il y a des spécificités, il y a des métiers. Il y a l'éditeur, il y a celui qui va vendre, il y a l'agent, etc., etc. Donc en faisant un amalgame autour de ça, ça nous empêche de voir des solutions de sortie. Et comme nous avons eu le théâtre en tant que consommateurs, bon, beaucoup d'entre nous ne sont pas passés dans les coulisses. Sinon, si on avait fait cet exercice, on aurait compris que c'est la scène, la salle théâtre qui a donné l'idée de l'usine à l'Europe. Parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, seul un espace, salle de théâtre, était le seul lieu où tu avais différents corps de métiers qui travaillaient pour produire un produit. Donc, mais nous avons réduit tout cela à une seule fonction, d'où l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et il faut arriver à mettre tout cela à plat et à reconstruire. L'exemple le plus évident, c'est que il y a quelques années, le Sénégal a fermé son École nationale des arts pour la rouvrir en l'appelant l'École nationale des métiers des arts. C'est pourquoi, moi, je viens de sortir un ouvrage que j'ai appelé « Les métiers du théâtre », pour que les gens comprennent que dans les métiers du théâtre, tu as des métiers de l'administration déjà, tu as des métiers de la création et tu as les métiers techniques. C'est cet ensemble qui forme un théâtre.
Magnifique. On va revenir vers vous tout à l'heure pour un peu de plus développer. Ismaïla Samba Traoré, vous êtes écrivain et promoteur de la maison d'édition La Sahélienne. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que les romans, les livres sont piratés également?
Oui, c'est le même constat, je pense, au niveau de toutes les filières de production artistique, littéraire, n'est-ce pas? Dans la mesure où le livre n'échappe pas à cet environnement où la duplication à grande échelle, les industries, les techniques, les technologies de reproduction à grande échelle, numérique notamment, informatique, ont créé un nouveau contexte tel que le produit peut être réapproprié par n'importe quelle personne qui dispose d'une imprimante de haute définition ou d'une imprimerie ou bien d'un studio de... Voilà. Donc la question reste la même pour le livre très certainement. Mais je voudrais juste dire pour accompagner l'analyse de mes trois confrères qui ont expliqué assez clairement les choses, dire que nous sommes effectivement sur le territoire, sur le terrain de l'entrepreneuriat culturel. L'entrepreneuriat culturel, c'est quand même des métiers, comme l'a dit Adama, c'est des filières, ce sont des professions, ce sont c'est toute une industrie qui secrète des revenus, qui produit de la richesse. On a signalé que rien que l'industrie du cinéma en Afrique du Sud participe pour plus de 2% à la production de la richesse en Afrique du Sud. Si vous prenez le cas du Brésil, que vous preniez le cas du Maroc, de la Côte d'Ivoire, dans tous ces pays, le livre ou la musique ou le film, le cinéma, participe à la production de la richesse dans une très très grande proportion. Et même dans notre pays, aux belles années de l'industrie musicale, je pense que l'industrie musicale rapportait, je ne sais pas, 400 ou 500 milliards. Quelque chose, des chiffres que je ne peux pas... Oui, ce sont des chiffres que je ne peux pas affirmer sans mes sources, sans mes écrits. Mais il y a une réalité de l'économie de la culture qui profite à la fois aux métiers, aux professions, aux acteurs, à l'assiette fiscale, à toute une chaîne qui est au niveau de toutes ces considérations. Maintenant, dans l'absolu, en Europe, tous ces métiers rapportent de l'argent. Tous ces métiers rapportent de l'argent. Mais dans l'absolu, dans tous les pays du monde, la culture est l'objet de subventions, est l'objet de dégrèvements fiscaux, est l'objet de procédures d'accompagnement, de régimes d'utilité publique, de systèmes qui font que le pays producteur de richesses, le pays qui défend sa culture, exporte une image, exporte un pouvoir sur les autres, tel que l'État qui est responsable, les pays développés, par exemple les pays européens occidentaux, et mettent énormément d'argent dans ces industries-là de façon à asseoir leur domination culturelle sur le monde. Nous sommes arrivés assez tardivement sur ce terrain-là et nos industries sont assez jeunes par rapport à la jeunesse même de nos États.
Merci. On va prendre quelques secondes de pause et on revient continuer la suite de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Mercredi 23 mars, vous suivez donc le Grand Dialogue. On est en train de parler de la protection des œuvres culturelles, artistiques et littéraires. Pour répondre à nos questions, Maïmouna Hélène Diarra, elle est comédienne. Je suis sûr qu'elle est plus connue sous le nom de Bram Soudougou. Ismaïla Samba Traoré, écrivain, promoteur de la maison d'édition La Sahélienne. Madame Diallo Aïda Kone du Bureau malien des droits d'auteur. Adama Traoré de Acte 7. Donc, Madame Diallo, on va revenir vers vous pour vous poser cette question-là. Quelles sont les œuvres les plus piratées au Mali aujourd'hui? Est-ce qu'on parle du cinéma, des films? Est-ce qu'on parle du théâtre, puisqu'on voit les CD, les cassettes de théâtre filmées, vendues? Est-ce qu'on parle de la littérature, des romans? Quelles sont les œuvres aujourd'hui qui sont plus sujets à la piraterie?
Si vous me permettez, M. Touré, moi je crois que je n'avais pas eu le temps d'épuiser ma première question.
Allez-y.
Et je crois que le débat... il n'est intéressant que si l'on arrive à faire valoir ses idées.
Absolument.
Alors, je reviens en arrière pour dire que c'était toujours dans les mêmes, la première question, pour savoir si l'art nourrit son nom. Oui. Alors moi, je vais partir de deux analyses. La première analyse, c'est que actuellement, de plus en plus, nous ne faisons plus de reproduction mécanique. La reproduction mécanique, c'est la fabrication des cassettes.
Mmh.
Et quand il y a la reproduction mécanique, les auteurs ayant droit perçoivent les droits d'auteur. Actuellement, ces droits de reproduction mécanique sont en nette régression. On n'arrive plus à faire de reproduction mécanique.
Et à quoi est-ce que cela est dû?
La nouvelle technologie de l'information et de la communication, parce que les gens n'ont plus besoin de ces outils. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est les clés USB, les téléphones portables, l'ordinateur, ainsi de suite. Et la liste, elle n'est pas exhaustive. Donc, face à cet état de fait, nous ne reproduisons plus. Nos artistes n'arrivent plus à reproduire. Même s'ils les reproduisent, c'est d'une autre manière. Alors, la deuxième analyse, c'est que il y a le refus pour les utilisateurs ou les usagers de payer la redevance de droits d'auteur. Parce que la culture semble ne pas être connue dans notre pays. Nous assistons de plus en plus à cette réticence. Ce qui fait que, face à ces deux analyses, que l'art nourrisse son homme va être très difficile. Et s'y ajoute le spectre de la piraterie, qui prend des proportions inquiétantes. Parce que le monde évoluant, nous n'avons plus... Ou bien, il faut qu'on s'adapte. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, il y avait la piraterie classique. Et aujourd'hui, c'est la piraterie à l'ère du numérique. Donc, il faut s'adapter à la situation. Devant cet état de fait, dire que l'art peut nourrir son homme va être très, très difficile. Mais, en dépit de toute cette situation... Les artistes, nos talentueux artistes, s'illustrent tant au plan national qu'à l'international, en convoitant les trophées les plus prestigieux. Je parle du Grammy Award, je parle du prix de l'excellence de la CEDEAO. Et tant bien que mal, l'art peut nourrir son homme, comme l'art ne peut pas nourrir également son homme. Comme l'a dit Adama, quand on arrive à s'affirmer au plan international, on peut nourrir, l'art peut nourrir son homme, mais le cas contraire, ça va être très difficile. Revenir maintenant à la deuxième question, permettez-moi de prendre la deuxième question.
Allez-y, alors, quelles sont les œuvres les plus piratées aujourd'hui au Mali?
Sans une statistique fiable, mais selon nos propres constats, les œuvres musicales, les œuvres littéraires et les œuvres audiovisuelles sont les plus piratées dans notre environnement analogique et numérique.
Merci pour cette réponse. Maïmouna Hélène Diarra, vous êtes actrice, vous êtes comédienne, actrice, vous avez participé à la création de beaucoup de films. Qu'est-ce que, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que l'État fait pour essayer de contrôler justement ce fléau, pour protéger la propriété intellectuelle aujourd'hui?
Mais si vous me parlez d'État, moi je vais me poser la question, est-ce que l'État sait même que nous existons? L'État ignore notre existence.
Il y a quand même un ministère dédié à la culture.
Bien sûr qu'il y a un ministère, mais il y a un ministère, c'est vrai. Pour moi, le ministère ne s'intéresse plus aux musiciens qu'aux dramaturges et aux cinéastes. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Bon, quand tu parles d'œuvres piratées, moi je pense que il n'y a pas d'œuvres épargnées. Je n'en vois pas. Pour la simple raison que nous, quand on a tourné Damozon a été piraté avant même que ça ne soit diffusé. Damozon a été piraté.
Damozon qui est un film
Un film de Sidi Diabaté.
Sidi Diabaté, voilà.
Damozon a été piraté avant le montage, avant la fin du montage. Bon, comment? Ça a été piraté comment? Ça, on ne le sait pas. Il y a pas...
Est-ce que vous nous dites aussi que parfois les acteurs culturels eux-mêmes sont aussi les pirates?
On n'en sait rien. Si le réalisateur même dit que son film a été piraté, tu vas accuser qui? Qui tu vas accuser? Bon, Damozon. au marché aussi, ici. Il y a tellement de films. Tous nos films sont au marché.
L'on a vu d'ailleurs Cheikh Oumar Sissoko, quand il était ministre de la Culture, voir ses propres films piratés.
Film au marché, le ministre même. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'œuvre épargnée. Seulement, tu demandes ce que l'État fait. Moi, franchement, je ne sais pas. Parce que depuis combien de temps on parle de cette question de piraterie, les gens se soulèvent, ils font des marches, et après, est-ce que l'État fait quelque chose? Parce que pour moi, si l'État faisait quelque chose, on n'en arriverait pas jusque-là.
Est-ce qu'il y a d'autres pays aujourd'hui de la sous-région qui sont épargnés? Des pays comme la Côte d'Ivoire où l'art semble un peu plus protégé, par exemple?
Moi, je pense que dans les autres pays, ils sont plus protégés que chez nous. Ça, je pense, hein?
D'accord. Merci. Adama Traoré, vous êtes de Acte Sect, un professionnel donc, du théâtre. Alors, le théâtre est joué quand même en live, présenté à un public en live. Comment est-ce que le théâtre peut être victime aujourd'hui de piratage?
Le théâtre peut être victime de piratage sur différents plans. D'abord, au niveau déjà du spectacle fini, des gens peuvent l'enregistrer et créer un marché parallèle. Ça peut être piraté quand, une fois déjà, on l'enregistre et que ça passe sur une télévision. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est des systèmes, des techniques qui existent, que ce soit au Mali ou ailleurs. Bon, donc, le grand problème aujourd'hui que nous avons, c'est que c'est le manque de soutien à la création. Il y a le paysage culturel malien se caractérise par des manques. Manque d'aide à la création, manque d'aide à la diffusion, il n'y a pas de structure de production. Et on a aussi, au niveau législation, on a une législation très faible.
Parlons un peu d'ailleurs des législations qui régissent justement le droit à la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que ça dit concrètement?
Oui, ben, ma foi, si vous regardez et que vous faites une comparaison au niveau de la sous-région, il y a des pays comme le Burkina, le Sénégal, la Côte d'Ivoire même, qui commencent à accueillir depuis quelques 2-3 ans maintenant, où il y a les droits des interprètes qui existent, qui perçoivent des droits des interprètes. Minime soit-il, il y a des redevances qui sont payées pour les droits des interprètes. Bon, peut-être que je ne le sais pas, mais à ma connaissance, je ne sais pas si déjà au niveau du Mali, on a des droits des interprètes ou droits voisins qui sont payés pour le moment. Bon, ça c'est une interrogation. Donc à ce niveau-là, qui est-ce qui peut percevoir au niveau du théâtre dans la législation telle qu'aujourd'hui au Mali, peut-être le metteur en scène ou l'écrivain dramaturge, mais ce n'est plus sur le support théâtre, mais c'est peut-être support papier qu'il va percevoir. Mais là aussi, ça c'est une autre question. Donc si les autres ne perçoivent pas des droits à ce niveau-là, c'est sur les entrées qu'il faut compter. Or, et c'est là aussi encore cette faiblesse de la législation malienne, parce qu'on vient de nous dire qu'il y a un texte qui vient d'être pris par rapport au statut de l'artiste. Mais le statut de l'artiste, ça sous-entend une certaine fiscalité. C'est dans les autres pays, c'est ce qu'on a permis de créer le statut des intermittents. Si vous prenez un artiste, comédien ou musicien, dans un pays comme le Mali, où tu n'as pas de salle pour exploiter. Donc, les 3 mois du mois d'hivernage, forcément, tu ne peux pas faire de la production. Si tu ajoutes que le mois de carême de Ramadan tombe sur un mois qui n'est pas le mois de l'hivernage, ça veut dire que tu as 4 mois dans l'année où tu ne peux pas produire. Et alors, si tu es producteur et que moi, je suis employeur, j'ai une troupe, donc je ne peux pas sur ces 4 mois-là, payer mes charges sociales en tant qu'employeur. Donc, ça veut dire que, et c'est sur ces exemples aussi pratiques qu'on parle des statuts de l'artiste qui tiennent compte de la spécificité du métier. Bon, aujourd'hui, encore dommage, on nous apprend qu'il y a eu un texte qui a été voté, qui a été adapté pour ça. Bon, nous ne l'avons pas vu. J'ai saisi les autorités du ministère du tutelle pour demander à voir cet exemplaire. Je n'ai pas vu. On m'a dit non, il faut attendre que ce soit diffusée au niveau du journal officiel pour que nous puissions l'avoir. Ça veut dire, comme dirait l'autre, on rase la tête en l'absence du propriétaire. Mais bon, d'aucuns diront que c'est des détails, mais des détails qui méritent d'être soulignés.
Des détails donc pertinents. Maïmouna Hélène Diarra, allez-y.
Adama, quand Adama parle de salle, ici on n'a pas de salle de répétition. Il n'y a pas de salle, même de théâtre ici, digne de ce nom. Par exemple, si vous prenez le Sénégal, et ils ont fait une salle de théâtre. Et si nous jouons où? Soit au Palais de la Culture, Palais de Congrès, il n'y a pas de salle appropriée pour ça. C'est pourquoi j'ai dit que est-ce que l'État sait même que nous existons,
hein? Donc il y a aussi à tous
et puis les théâtres aujourd'hui, tout le monde est devenu comédien. Tout le monde est devenu comédien. C'est un métier maintenant qu'on a prostitué, vous m'excusez du terme. C'est à la portée de tout le monde maintenant. Quelqu'un se lève le matin, du jour au lendemain, il devient comédien. Et alors que ceux qui sont partis à l'INA et qui ont fait ce métier, qui ont étudié le théâtre, eux, ils sont là. On dit qu'ils sont chers. On prend des gens qui font du n'importe quoi et on dit des comédiens. L'État ne fait rien. L'État ne fait rien pour préserver les gens. D'abord qu'il nous crée une salle. Qu'il nous crée une salle.
Ismaïla Samba Traoré, écrivain, promoteur de la maison d'édition La Sahélienne. Qu'est-ce qui aujourd'hui pousse ces gens entre guillemets, les pirates, à pirater nos œuvres artistiques, culturelles et même littéraires aujourd'hui?
Bon, je pense que l'état actuel des nouvelles technologies, l'état d'avancement et la naissance des nouvelles technologies, de l'information et de la communication est pour une part responsable de toutes ces facilités de piraterie, de piratage notamment. Il y a également le fait que nous sommes dans des états où les structures étatiques ne se préoccupent pas de la défense des paramètres. Les paramètres, c'est quoi? Il y a quand même des lois, il y a des règles. Si seulement on
justement, est-ce que ces lois sont appliquées?
Justement, si seulement on appliquait les lois, je pense que si seulement la plainte de X aboutissait à la mobilisation des acteurs et que cela conduise à une judiciarisation, si seulement la loi était appliquée, le problème serait résolu. À Bamako, on sait que il y a une catégorie presque ethno-économique qui a la haute main sur la piraterie de la musique. Ce sont des gens identifiables à partir d'un réseau de parenté, à partir souvent d'un réseau de famille, n'est-ce pas, assez puissant, qui, depuis le garçon débarqué du village à l'âge de 7 ans, jusqu'à l'opérateur qui voyage à travers le monde, ce sont des gens qui portent les cassettes, qui piratent, qui les donnent à vendre, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'est pas possible pour un État de faire la traçabilité d'une cassette qui est arrivée sur le marché et que l'auteur, le compositeur déclare comme ayant été piraté? Cela devrait être possible. Mais c'est l'État qui n'applique pas les bons principes.
Cette cassette, elle entre bien par quelque part. Donc,
oui, justement, c'est vrai que le bureau malien du droit d'auteur travaille même avec la douane. Travaille en tout cas avec la douane. C'est-à-dire que si seulement il est un plaignant, un musicien plaignant dit « ma cassette est piratée », à partir du revendeur du marché, il est possible de remonter jusqu'au commanditaire, celui qui a déclenché le processus de copie illégale.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une grande dose d'ignorance? Parce que quand je vois ces petits revendeurs de cassettes, de CD aujourd'hui, ou même de livres au coin des rues, sur les grands axes, ils ne semblent pas savoir ce qu'ils font.
Ils sont en bout de chaîne. Ils sont en bout de chaîne. Mais ceux qui commandent ces leviers économiques, ceux qui commandent la duplication illicite, et ils savent ce qu'ils font. Et le revendeur n'est que quelqu'un qui vient du secteur informel, qui prend à la fois des bonbons, des biscuits, des brosses à dents, et tout ce qu'il trouve, il vend, comme dirait Jean-Michel Cancan. C'est pas un métier. Le revendeur du quartier, de la rue, de feu, c'est quelqu'un qui vend tout ce qu'il y a à sa portée. Et si vous permettez, je vais essayer d'éclairer un peu concernant le livre, parce que l'analyse de mes trois confrères est très très claire s'agissant de l'ensemble des professions. Le livre, c'est plus compliqué. Parce que le livre, d'abord, dans tous les pays du monde, on dit que le livre ne nourrit pas son homme. Le livre ne nourrit pas son homme parce que pour arriver à tirer des ressources substantielles de la vente d'un livre, il faut vraiment que ce soit un best-seller tiré à 20 000, 50 000, 100 000 exemplaires. Et le prix qu'il rapporte, si le prix rapporte 50 millions. Bon. Donc il y a comme ça quelques personnages emblématiques qui font rêver les écrivains. Qui font rêver. Alain Mabanko, aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a une grande fortune parce qu'il a publié des livres à succès, il a tiré beaucoup de revenus de ses prix littéraires, des choses comme ça. Mais il n'y a pas 2, 3, 4, 5 Alain Mabanko en Afrique. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, la population, en fait, la clientèle de la littérature, ce sont des écrivains qui s'adonnent à l'écriture par passion, pour le plaisir. Et à la fois pour Madame Maïmouna Hélène Diarra comme pour Madame Diallo, ou nous tous, Adama et moi, ce que nous faisons, nous le faisons par passion, par conviction. Et il est arrivé que, à certains moments, nous sentions que nous sommes utiles à nos pays. Parce que si vous regardez un pays, ce sont les éléments de la culture qui parlent d'abord à l'étranger. Je pense que le premier diplomate d'un pays, c'est la culture.
Absolument.
Et les gens perçoivent un pays d'abord à travers sa culture et ses hommes de culture. Donc, il y a un engagement pour le plaisir et par patriotisme qui fait que les gens sont dans ces professions-là. Mais lorsqu'on arrive au niveau du livre, par exemple, ici, nous avons des acteurs bien connus qui sont les responsables de l'échec de la filière du livre. Bon, il y a, vous savez...
Observez quelques secondes de pause, juste le temps, et on revient vous redonner la parole.
Je vous en prie.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Vous suivez le Grand Dialogue de Studio Tamani. Bienvenue donc dans le troisième volet de cette émission qui parle de la protection des œuvres culturelles, artistiques et littéraires. Ismaïla Samba Traoré, écrivain, promoteur de la maison d'édition La Sahélienne, avait la parole. Alors, allez-y, rapidement.
Oui, un éditeur, c'est quelqu'un qui met en chantier une maison de production.
Alors
une
vous disiez que l'échec justement voilà, de la littérature au Mali
voilà, est dû à un certain nombre d'acteurs et de paramètres. Paramètres, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, si seulement l'État agissait comme on le fait ailleurs.
Moi, j'ai une question. Dans un pays où le taux d'alphabétisation est quand même très bas, comme au Mali, est-ce que le livre est consommé ?
Dans un pays où le taux de scolarisation, dépasse les 50%, j'estime que le livre a une carrière. Pas seulement le manuel, même le livre de lecture. C'est l'absence de disponibilité, d'accessibilité de la famille ou de l'élève au livre ou à la bibliothèque d'école, d'établissement qui pose le problème. Donc là, nous revenons à la responsabilité de l'État qui doit infrastructurer, comme on dit, faire des équipements et rendre disponibles les livres et l'écrit. Bon, ceci dit, de manière courante, quotidienne, aujourd'hui, l'éditeur est confronté à un certain nombre de problèmes. Un ouvrage qui marche, il peut être piraté par l'imprimeur du quartier. Un imprimeur, il prend un livre, il peut le défaire et le refaire à sa façon. Il est arrivé assez souvent à partir du marché d'Ibida qu'un tel livre qui serait demandé soit fabriqué de cette manière par des imprimeurs qui sont... Ce marché par terre de Bamako, qui est bien connu, c'est un marché qui entretient la piraterie à grande échelle s'agissant du livre et de l'imprimé. Et ça, tout le monde le connaît. Et qui a même sécrété des opérateurs qui sont très forts, qui entendent parler d'un marché d'une ONG qui veut acheter tel livre en langue nationale ou autre chose, et bien qui posent leurs paramètres, qui entreprennent de phagocyter le circuit et qui vont capturer le marché et qui le piratent et qui vont le vendre en lieu et place de l'éditeur ou de l'auteur. Tout ça est arrivé. Il est arrivé même que des directions de finances et du matériel jouent de cette chose-là et qu'ils se prêtent à ce jeu par des acteurs de substitution qui ne sont pas les véritables opérateurs.
Absolument. Donc, ce qui pose un problème très concret. Madame Diallo Aïda Kone du Bureau malien des droits d'auteur, vous êtes du service communication et relations publiques. Comment est-ce qu'on protège son œuvre aujourd'hui au Mali?
Alors, avant d'arriver à la protection, j'aimerais aborder d'abord les textes régissant la propriété littéraire et artistique.
Allez-y rapidement.
La première ordonnance sur les droits d'auteur date de 1977, l'ordonnance 7746 CMLN. Et les temps évoluant, nous avons procédé à la relecture de cette ordonnance et pour en prendre en 1984, la loi 84-26 ANRM. Et comme je l'ai dit toujours dans l'optique de l'évolution, nous n'assurons que la gestion des droits d'auteur. En 2008, une autre relecture s'imposait pour prendre en compte la gestion des droits voisins.
Donc, est-ce que la protection aujourd'hui des œuvres ne vous incombe pas directement?
La protection des œuvres littéraires et artistiques incombe au Bureau malien du droit d'auteur.
Alors, comment
et pour
est-ce
cela,
qu'on peut protéger son œuvre?
Pour cela, aucune condition, je le dis et je le maintiens, aucune condition n'est requise pour la protection d'une œuvre. Cette condition a été prônée par la Convention de Berne de 1886, et elle a été reprise dans la loi de 1984, encore reprise dans la loi qui a été adoptée par le gouvernement, courant ces mois-ci. Donc, l'article 2 de cette loi stipule que, du seul fait de la création, une œuvre est protégée sans aucune condition. Et, mais comme on le dit comme ça, le commun des mortels ne peut pas comprendre. Parce qu'une œuvre même inachevée, elle est censée être protégée. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des garde-fous. Parce que l'œuvre peut faire l'objet d'un piratage, comme on le disait tantôt. Et il faudrait que l'on sache à qui appartient la paternité d'une œuvre. Alors pour avoir ces garde-fous, on est obligé de venir faire la déclaration de l'œuvre au Bureau malien du droit d'auteur. Qui est l'auteur? Qui sont les ayants droit? Pour que un jour, si l'œuvre fait l'objet d'exploitation et s'il y a des retombées économiques, qu'on puisse protéger, disons qu'on puisse faire la répartition des droits qui sont issus de l'exploitation économique. Alors, la condition pour la protection d'une œuvre, aucune formalité.
Pas d'argent à payer, pas juste se présenter.
Ça, c'est une des conditions. Un principe sacro-saint en matière de droit d'auteur.
D'accord.
Une œuvre est censée être protégée dès sa protection, dès sa création. Mais comme je l'ai dit, pour pouvoir prétendre à la paternité un jour, il faut déclarer l'œuvre. Et en déclarant l'œuvre, il faut amener certaines conditions. Et quelles sont ces conditions? Rapidement, il faut deux photos d'identité, l'œuvre, la copie originale de l'œuvre, ou bien l'œuvre elle-même, et ensuite un extrait d'acte de naissance. Et ça dépend, 10 000 francs, 30 000 francs, selon les cas. Et je crois qu'une autre fois, nous aurons l'occasion de donner les détails des conditions d'adhésion au Bureau malien du droit d'auteur.
D'accord. Merci beaucoup. Maïmouna Hélène Diarra, vous êtes donc comédienne très connue au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'une œuvre création peut échapper à la piraterie?
Du côté du théâtre, moi, je n'en vois pas. Parce que déjà, dans la salle, les gens ont leur téléphone portable. Ils filment le spectacle. Bon, tu as beau leur dire de ne pas filmer, rien à faire. Les gens ont des systèmes. Moi, la question, je la rejette à l'État. Et je n'ai jamais vu aussi le bureau de droit d'auteur, Aïdaïla, convoquer quelqu'un à la police ou bien au tribunal, juger quelqu'un, dire que telle personne a fait ceci et, il est condamné, et la personne est condamnée à payer tel montant. Ça, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Donc, cette question, je la rejette à l'État. Il faut que l'État nous protège. Le théâtre se meurt aujourd'hui. Il n'y a plus de théâtre au Mali. Il y a des gens qui ne font que jouer la comédie. Il n'y a rien. D'après Adama, quelqu'un veut bien évoluer maintenant, bien tu veux avoir quelque chose, il faut que tu sois sollicité à l'extérieur. En tout cas, pas au Mali ici. Les films que nous faisons, le financement manque, on ne peut plus produire de films. Donc, nous, on est là. À moins que tu fasses d'autres travaux. Sinon, les gens qui vivent bien, qui sont sortis de l'INA et qui ne font que du théâtre ou bien du cinéma, je pense que c'est des gens qui sont destinés à mourir un jour. Hein, parce qu'ils n'auront pas à se nourrir.
Vous me permettez de réagir ça?
Très rapidement, on commence à manquer de temps, allez-y.
Ok, donc pour votre lanterne, pour éclairer votre lanterne, je m'en vais vous dire qu'il y a un service juridique et du contentieux. Moi-même, j'ai assuré la responsabilité de ces services pendant 7 ans. de 2003 à 2010.
Et justement, est-ce qu'il y a eu des procès?
Il y a eu des condamnations. Il y a eu des condamnations. Même aujourd'hui, nous avons des procès en cours.
Et ça aboutit.
Bon, souvent ça aboutit parce que ça, ce n'est pas notre rôle. Nous, nous faisons la mise en état des dossiers. On les donne à qui des droits. Et il appartient maintenant à une autre structure de procéder au jugement.
On va dire que la justice donc doit suivre ces dossiers juridiques.
Parce que le mal, il n'y a plus de théâtre au Mali. Hein. Le théâtre se meurt au Mali. Il n'y a plus de théâtre. Ça, il faut le dire. Tout fort, tout haut. Il n'y a plus de théâtre.
D'accord, merci. Adama Traoré de Acte 7, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour stopper la piraterie concrètement? On a vu par exemple au Sénégal qu'on a pris parfois ces pirates-là et qu'on a formé, transformé en producteurs de spectacles, de musique, de théâtre et autres.
Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. D'abord, une des raisons de la piraterie ou de la contrefaçon est due à un problème de distribution, de marketing. Si vous voyez, le Mali, nous n'avons pas une maîtrise de notre marché. Soit un livre ou dans l'édition, dans le livre, tu n'as pas de librairie un peu partout dans le pays. Tu n'en as pas, même pas à Bamako. Si c'est les cassettes, tu vas trouver que, au temps où on sortait à des cassettes ou des DVD, tu vas trouver que ça sort à Bamako, tu as des images, des clips ou autres qui passent à la télé. Tu vas trouver que dans l'arrière-pays, le document n'est pas disponible. Ce qui fait que c'est l'exemple que les...
Donc est-ce que ça, c'est pas non, le manque c'est... justement d'industrialisation
oui,
de la culture?
Oui, parce que quand j'ai commencé à parler, je vous ai dit qu'il y a les différents métiers. Le métier du distributeur existe. Par exemple, pour combattre ce problème de piraterie à un moment donné, qu'est-ce que le Nigeria a organisé? Le Nigeria a organisé non seulement sur son territoire, mais sur les pays voisins, ce qui fait qu'une fois qu'ils ont enregistré, les dépôts sont posés dans tous les pays, dans tous les coins, jusqu'au Bénin, jusqu'au Cameroun, et c'est quand ils ont ravitaillé tous les dépôts que la communication commence, que le gens qui sort, il sait que en sortant de sa maison, à côté, il a le produit sur place.
D'accord.
Donc ça, c'est une technique.
Merci beaucoup. On va très rapidement
ici,
parce
nous,
que l'émission est presque terminée.
Pourquoi c'est difficile de contrôler? Toi, Ousmane, par exemple, tu as chez toi, tu as ton appareil pour enregistrer. L'ORTM passe des films, ou bien des pièces de théâtre, ou bien des musiques. Toi, tu enregistres, tu fais des duplications.
Donc aujourd'hui, la duplication est devenue plutôt à l'interne et difficile à contrôler.
Ce n'est pas de l'extérieur,
d'accord.
Ça se fait au Mali même.
On va rapidement donner un dernier mot à Oudoyen Dage, Ismaël Assamba Traoré, écrivain et promoteur de la maison d'édition La Sahélienne. La répression ou la sensibilisation, qu'est-ce qu'il faut privilégier aujourd'hui dans le cas justement des œuvres artistiques, culturelles et littéraires?
Il faut privilégier la professionnalisation. L'exemple qu'il a donné sur le Nigeria est un exemple de professionnalisation. Vous avez un produit, avant de le mettre sur le marché, il faut infrastructurer de façon à ce qu'il n'y ait pas de place pour les apprentis sorciers et les larbins. Alors, en sorte que lorsque vous sortez votre produit, il faut que le circuit de distribution, de diffusion soit disponible. Dans nos pays, que ce soit les livres ou d'autres industries, eh bien malheureusement, nous n'avons pas infrastructuré, comme dirait Kizerbo. Il n'y a pas les infrastructures qui accompagnent la production artistique et littéraire. Et ça, c'est un grave manque parce que c'est parce qu'il n'y a pas l'infrastructuration que eh bien, toutes les poches de zones d'ombre sont prises en main par des gens qui viennent de l'informel.
Merci mesdames, merci monsieur. Ceci met donc un terme à l'émission d'aujourd'hui. On parlait dans le grand dialogue du jour de la protection des œuvres culturelles, artistiques et littéraires. Nous étions avec Maïmouna Hélène Diarra, elle est comédienne. Ismaïla Samba Traoré, écrivain, promoteur de la maison d'édition La Sahélienne. Madame Diallo Aïda Kone du Bureau malien des droits d'auteur, merci. Adama Traoré de Acte 7, une association culturelle bien connue au Mali. Cette émission a été réalisée par Ayouba So, Gagné Kanté était à la mise en onde, Petting Diarra à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadié Touré pour la présentation. Merci et à demain.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri, Haloud Moundi.
Chienne Beri, Sigi.